ce qui donne une indication sur le métier du Père putatif de Jésus. Car dans même épisode, Saint-Luc écrit « N'est-il pas le fils de Joseph ?» Plus haut, il avait fait suivre le récit de la tête de Jésus par les conseils de sa généalogie. Jésus, à ses débuts, avait 30 ans environ, il était fils, croyait-on, de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, ainsi fils de David. L'intention de Saint-Luc était claire, il voulait montrer que Jésus était bien de la descendance royale. La généalogie de Saint-Matthieu, présente de son côté, reprend avec force cette affirmation dès le premier livre des origines de Jésus-Christ, fils de David. Les deux évangélistes veulent ainsi montrer que l'enfant répond à une attente séculaire d'Israël, car le Messie Joseph donne à Jésus une lignée royale, messianique, même si Saint-Luc, plus universaliste, l'a fait même remonter en définitive à Adam et à Dieu. L'approfondissement de la réflexion sur le Christ va susciter une nouvelle interrogation. Comment pourrait-il être le Fils de Dieu? C'est pour répondre à cette question et à d'autres de même que furent écrits les prologues de saint Matthieu et de saint que nous appelons les évangiles de l'enfance. Ces récits ont donc avant tout une visée doctrinale. Celui de saint est construit autour de la figure de l'âme et celui de saint Matthieu autour de celle de Joseph. La généalogie de Jésus dans saint Matthieu se terminait par Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Verset qui, par excellence, témoigne de la naissance virginale de Jésus. Ce que l'évangéliste confirme aussitôt, levant à cet égard toute ambiguïté, avec le passage que nous venons d'entendre, l'enfant vient mystérieusement du Saint-Esprit. L'appel à la confiance de Joseph à l'égard de Marie se double maintenant d'un appel à la foi envers Dieu, cette conception cellulaire. La révélation faite à Joseph du mystère de cette naissance ne supprime cependant pas sa qualité de père. Il transmet tout d'abord au centre droit juif de l'époque son ascendance davidique. Il exerce sa paternité en donnant à l'enfant le nom de Jésus, Dieu sauve, qui énonce sa mission. Joseph, dont le nom signifie quant à lui que Dieu ajoute, a ainsi ajouté au monde celui qui sauvera son peuple de ses péchés, et bien plus que son peuple, toutes les nations appelées à être bénies dans la descendance d'Abraham. Le rôle de Joseph se poursuit puisqu'il est à nouveau mentionné lors de l'épisode de ce pèlerinage à Jérusalem où Jésus perdu est retrouvé au temple. Il disparaît ensuite des Écritures. Dans les passages où la parenté de Jésus est mentionnée, où Marie est citée, il n'est plus jamais question de Joseph. Cela explique peut-être le caractère tardif de son culte, qui ne commence vraiment à s'épanouir au XVe siècle, avec les sermons du franciscain Saint-Bernardin de Sienne, par ailleurs grand propagateur du culte du Saint de Jésus. Le culte de Saint-Joseph trouvera ensuite en Saint-Thérèse de Jésus, au XVIe siècle, une ardente propagatrice. Elle mettra toutes ses vocations sous sa protection et le Carmel, au XVIIe siècle, le prendra pour patron céleste. La chapelle des Carmes, où nous avons célébré la fête de Saint-Thérèse le 15 octobre dernier, en est l'illustration. XVIIe siècle, puis le milieu du XXe, voit l'apogée de la dévotion à Saint-Joseph qui finira par entrer dans le canon romain avec la bénédiction de Saint-Jean XXIII qui lui était particulièrement attaché, puis dans les autres prières eucharistiques sur décision du pape actuel. et par pressant, n'ont pas cessé en effet de promouvoir son culte. Quel en est donc le sens? Lorsque l'on comprend les décisions de Léon XIII, de Saint-Pie-X, de Pie-XI, de Pie-XII, de Saint-Jean-XXIII, on s'aperçoit qu'il s'agit de faire sortir la sainteté des cloîtres. Il s'agit de nommer à la grande masse des chrétiens, c'est-à-dire des laïcs, confrontés essentiellement à la vie familiale et à la vie professionnelle, un modèle qui leur soit proche par ses préoccupations. Une certaine manière, semble-t-il, l'exemple de Saint Joseph anticipe l'appel universel à la sainteté contenu dans la Constitution conciliaire de l'Ingénieur. La dévotion à Saint Joseph a certainement préparé cette évolution. On peut en trouver un exemple dans la spiritualité de l'Opus Dei, dont le fondateur était lui-même un ardent dévot de Saint Joseph. Aujourd'hui, la dévotion à Saint Joseph n'a pas perdu de sa valeur. Et pas seulement lorsque l'on tourne les pages de la famille chrétienne de la semaine dernière pour trouver un dernier recours un logement. À une époque où on réduit toute relation humaine à la sexualité, il est bon de rappeler que ce qui fait le cœur du foyer, de l'amour conjugal et parental, peut exister aussi à un niveau supérieur, proprement spirituel, sans cesser d'être humain. Oui, il est possible d'aimer d'actes d'amitié, comme disent les disciples d'Aristote, sans que cela se traduise nécessairement par un geste sexuel. Oui, l'amour peut être pur, il peut être désintéressé, il peut être service de l'autre, avant d'être satisfaction toujours un peu égoïste de ses propres instincts. On peut rappeler à cet égard que la chasteté est d'ailleurs une vertu qui s'exerce aussi à l'intérieur du mariage, que cette qualité d'amitié spirituelle est l'efflorescence même de la relation conjugale. L'exemple de Saint-Joseph nous apprend encore qu'une vie humaine, c'est également une vie marquée par le travail, lorsque l'on est inactif, par un travail conçu comme service des siens, au double sens de service de la famille et de service de la société. Par le travail, on subvient en effet non seulement à ses besoins personnels, mais aussi à ceux de sa famille, et de ce point de vue, on renonce à la tentation de l'égoïsme et on s'exerce donc. Par le travail, on sert aussi la société des hommes sans se servir d'elle. Et à cet égard, le métier de Saint-Joseph n'est pas sans signification. Son travail est un travail de bâtiment, de charpentier. À son époque, c'était un peu la providence du village, l'artisan polyvalent qui aide tout le monde. Il vaut peut-être la peine de s'interroger sur la nature du travail que l'on exerce. Car, vous savez, il y a des tâches dégradantes, des tâches nuisibles, des tâches qui desservent la société humaine. Ce dont les Juifs contemporains, d'ailleurs, avaient parfaitement pris conscience, pensant à leur mépris pour le métier de publicain, colter les impôts, au service de l'occupant romain. Ces métiers de publicain, vous le savez, se sont multipliés aussi à notre époque. Pensons à ce dont le métier consiste à tromper les gens, à leur vendre du vent, à les aider. Pensons à ces métiers en apparence brillants, en définitive respecteurs, tous ceux par exemple qui tournent un peu trop près autour de l'argent, voire même de la spéculation. On pourrait simplement allonger la liste de ces métiers-là. Enfin, peut-être y ajouter celui de politicien et d'autres encore. Enfin, le travail, en se heurtant à la réalité de la matière, de cette matière vivante créée par Dieu, est une école de réalisme et de dépassement de soi. Et en ce sens, le travail, plutôt que le faire, est une réalité qui humanise. Il faudrait retenir l'enseignement de Saint Jean-Paul II à ce sujet. Les anciens dans l'Antiquité voyaient de valeur que dans le loisir. mais aussi